chronique terrienne, parce que nous voulons des coquelicots et des abeilles. Une fois par mois, sur Radio Saint-Aff, par Cécile Blanche.
Bonjour et bienvenue dans cette émission. Les chroniques terriennes ont pour ambition de vous informer le plus précisément possible sur les éléments, les faits qui justifient notre lutte pour la disparition des pesticides. Demander l'interdiction de tous les pesticides, c'est dans le même temps voter pour l'agroécologie. Mais quelle agroécologie ? L'agroécologie pratiquée par les paysans qui se sont tournés vers l'agriculture biologique, et je ne parle pas seulement du label, bien entendu, ou l'agroécologie promulguée par les lois et qui doit être compétitive, innovante, exportatrice. Le mois dernier, je vous parlais de tout le mal qu'on pouvait penser des nouvelles lois sur l'agroécologie version gouvernementale. On y reviendra. Il y a encore plein de choses à dire là-dessus. Mais aujourd'hui, pour parler de la vraie agroécologie, l'agroécologie paysanne, on va parler sol, puisque c'est l'élément essentiel, le substrat, qui conditionne tout le reste. Qu'est-ce qu'un sol ? Je vous parle de ce sur quoi nous marchons quand nous nous baladons. Le sol, ou plutôt les sols, car il y en a une infinie variété. Et je suis sûre que ça ne vous a pas échappé. La palette des couleurs d'abord. Noir, rouge, brun sombre, brun clair, jaune. Et puis la texture. Argileuse, un peu collante, douce au toucher. Ou plus léger, sableux. Et puis avec des cailloux ou sans cailloux. Et des cailloux petits ou gros, durs ou friables. Cette variété des sols engendre la variété dans les paysages, dans la végétation, variété qui fait notre bonheur. L'organisation d'un sol, sa genèse, son évolution dans la nature, c'est aussi merveilleux et complexe et intelligent qu'une colonie d'abeilles. Comment la nature fabrique un sol ? D'abord, comme pour tout être vivant, il faut de l'eau, même peu, de l'oxygène, de l'énergie et un substrat. Ce substrat, c'est tout ce que nous appelons les roches en géologie, tout ce qui a jailli du centre de la Terre, tout ce qui s'est déposé dans les mers puis a été émergé. La croûte terrestre, quoi. Voyons comment ça se passe sur les calcaires du Causse. Au début, il y a le gel, les écarts de température qui fragmentent la roche et la pluie qui la fait fondre. Le calcaire s'en va et reste des particules fines, de l'argile, qui s'accumulent. S'y ajoutent des débris de feuilles, des poussières transportées par le vent. Et arrivent des champignons, des microbes qui s'installent. Et pour se nourrir, digèrent tout cela, formant les premières traces d'humus, constituant essentiel du sol qui va permettre aux plantes de se nourrir. Nous avons là déjà un sol. Quelques graines poussées par le vent arrivent, germent, et la plantule pousse ses racines et commence à se nourrir grâce à l'humus. Les racines émettent des acides qui permettent la dissolution de la roche, et ainsi, la plante s'accroche à sa terre. Et c'est parti. Il y a de plus en plus de débris végétaux, feuilles, racines, tiges qui s'accumulent sur et dans le sol. La faune du sol se multiplie, fragmente et digère tout cela pour le transformer en humus qui va pouvoir nourrir la plante grâce aux microbes qui transforment tout ça en nutriments assimilables par les racines. De plus en plus de végétaux qui, avec leurs racines et la pluie qui s'infiltre, vont dissoudre et fragmenter de plus en plus la roche. Le sol s'épaissit, s'organise en couches qu'on appelle horizons. S'installent de plus en plus de microbes, de champignons, d'insectes du sol, de vers, et tous ces petits mondes vivent et meurent et se nourrissent les uns des autres. Le sol est alors constitué de grains, humus et argile mêlés, grâce à l'activité biologique des végétaux et des animaux du sol. Entre ces grains circulent l'eau et les gaz, oxygène, gaz carbonique, et c'est une activité permanente de transformation, dégradation, construction. Un système où rien n'est dû au hasard, mais procède des interactions entre tous les constituants du sol. Et le résultat, ce sont nos prairies, nos forêts et les cultures qui nous nourrissent. Quelques chiffres, car ils sont impressionnants. Un sol sain contient 1 milliard de micro-organismes par gramme, 1 à 2 tonnes de champignons par hectare et 2 à 4 tonnes de vers de terre. Il y a aussi des cloportes, des araignées, des mille-pattes et plus voyants, les taupes, les mulots, les campagnols, qui ont aussi leur rôle dans la bonne santé de la terre en creusant les galeries qui participent à l'aération indispensable. Certes, on se passerait souvent de leur présence dans notre jardin, surtout s'il est petit. 90% des espèces que porte notre planète vivent dans le sol. Et il y a encore à découvrir. Mais il faut qu'on se dépêche, car malheureusement, ce sol dont je vous parle, il est en train de disparaître au rythme de 10 millions d'hectares par an. Je vais vous faire entendre un extrait d'une conférence enregistrée lors d'une intervention de Claude et Lydia Bourguignon, invités de l'association Choisir à Mouans-Sartou dans les Alpes-Maritimes, pour saisir l'importance de respecter le fonctionnement naturel d'un sol.
À chaque climat et à chaque situation sur la planète, il y a un modèle écologique qui fonctionne et qui a une extraordinaire durabilité, alors que nous, en 50 ans, on a ruiné 1 milliard d'hectares. Donc il faut être modeste et regarder comment la forêt fait pour vivre pendant 70 millions d'années sans jamais perdre un élément. Et elle fonctionne de la façon suivante. Les arbres font tomber tous les ans leurs feuilles et les branches mortes à la surface du sol pour former ce qu'on appelle une litière. Cette litière va être attaquée par des animaux qu'on appelle la faune épigée. Cette faune épigée va manger la litière, va faire des crottes. Ces crottes seront attaquées par les champignons et les champignons ont fabriqué les humus. C'est-à-dire que le système sol-arbre, il est fermé, il n'y a jamais de perte. Un sol passe entièrement, tous les 10 ans, dans un tube digestif animal. Et c'est cette accumulation de crottes qui va faire que le sol de forêt est extraordinairement poreux. Et c'est ce qui va permettre donc à la forêt de ne jamais subir d'érosion, c'est que toutes ces crottes vont permettre à l'eau de rentrer rapidement. Perméabilité de la forêt, vous voyez, 150 mm d'eau à l'heure. Donc la forêt, 150 mm d'eau à l'heure, nous, 1 mm d'eau à l'heure. C'est pour ça que vous avez des inondations maintenant. Bien que depuis 20 ans, nous soyons dans les années les plus sèches depuis 3000 ans, nous n'avons jamais eu autant d'inondations. C'est-à-dire qu'on fait très fort en ce moment, on fait des inondations en période sèche. C'est quand même, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est parce que nos sols sont tellement en train de mourir biologiquement qu'ils ne peuvent plus boire l'eau. Donc après, on accuse la pluie, évidemment, ça n'a rien à voir avec la pluie. La nature, elle boit des quantités d'eau phénoménales. Et puis quand il est en contact avec le caillou, l'arbre va, par ses racines, va attaquer la roche. L'arbre secrète, il envoie, à partir de la photosynthèse des feuilles, il va envoyer des acides. Et il va être aidé aussi par les microbes, parce que c'est tous les exudats racinaires nourrissent des microbes qui vont aussi attaquer le caillou. Et microbes et racines vont dissoudre la roche et la transformer en argile. Et à cette grande profondeur, eh bien, vous avez des racines qui meurent, d'autres racines vivantes qui reviennent. Il y a une faune qu'on appelle la faune endogée, la faune qui vit à l'intérieur de la terre, en grande profondeur, et qui va nettoyer toutes ces racines mortes. Par exemple, un blé fait 200 km de racines, un pied de blé. Nous mettons 200 grains de blé au mètre carré, un champ de blé, c'est 4 milliards de kilomètres de racines à l'hectare. Eh bien, ces 4 milliards de racines de blé, lorsque le blé va être moissonné, et ces racines vont mourir, eh bien, tous ces animaux vont tout nettoyer, permettre à l'orge qui viendra derrière de réenvahir le sol. C'est comme ça que fonctionne la nature. C'est ces animaux qui constamment aèrent le sol, permettent à l'oxygène de rentrer, donc aux racines de s'enfoncer. Les bactéries et les champignons ont la propriété de rendre les éléments assimilables aux plantes. Les plantes sont incapables de se nourrir dans le sol, c'est les microbes qui les nourrissent. Donc si vous commencez à labourer, c'est-à-dire favoriser les bactéries et à faire partie de la matière organique, la faune disparaît. Si en plus vous mettez des insecticides ou des fongicides, vous bloquez le sol ne respire plus. Plus de possibilité pour les microbes de fabriquer à manger, vous êtes obligé d'acheter des engrais. Vous devenez dépendant des marchands d'engrais. Si vous ne gérez pas correctement cette porosité, on voit que le sol, ce n'est pas du tout un milieu dégoûtant qui salit les chaussures. C'est un milieu extraordinairement bien organisé, avec une faune qui aère, des microbes qui utilisent l'oxygène pour nourrir les plantes. C'est donc un milieu extrêmement subtil. Alors l'homme, à la fin du 19e, a commencé à comprendre que quand on mettait des engrais, ça traînait des réactions sur la croissance des plantes. Donc on a copié ce modèle-là, mais au lieu d'avoir cette richesse d'éléments, on a isolé les éléments qui permettaient aux plantes de pousser plus vite en n'étant pas trop nombreux, c'est les fameux NPK. Alors voilà ce qui va se passer. Si vous mettez trop de phosphore, la plante va avoir trop de pompes actives. À ce moment-là, vous jetez de l'engrais potassique, on y allait jusqu'à des 400 kHa en agriculture, et vous mettez trop de potassium. Qu'est-ce qui va se passer? Votre plante, qui est incapable de se réguler, parce que c'est un mécanisme qui existe depuis des millions d'années, elle ne connaît pas l'excès de potasse. Elle, il faut toujours qu'elle fasse tourner ses pompes pour se nourrir. Là, d'un seul coup, vous la surchargez. Elle va se gonfler de potassium et elle va devenir une charge trop positive. Et à ce moment-là, vous mettez du nitrate, N, et le nitrate, lui, va rentrer massivement dans la plante. Par contre, le nitrate, c'est un sel, vous allez saliniser la plante. Elle n'a qu'une seule façon de ne pas mourir, c'est de se gorger d'eau. C'est comme ça que vous vendez de l'eau au prix de la carotte. Au prix. C'est très intéressant au niveau financier, c'est très embêtant pour les gens parce que vous mangez des plantes totalement déséquilibrées qui ne vont pas vous nourrir. C'est-à-dire que quand vous allez acheter 1 kg de carotte, en fait, vous achetez beaucoup d'eau. Toute l'agriculture est basée sur l'entrée d'eau. On vend aux consommateurs de la flotte à la place des éléments. C'est pour ça que les gens sont tellement carencés. Alors ces plantes tombent malades. Mais ce n'est pas grave, les entreprises qui fabriquent les engrais fabriquent aussi les pesticides qui soignent les plantes malades. Donc ces plantes malades qui devraient mourir, ben vous les mangez, donc vous ne mangez que des plantes malades. On ne fait plus d'agriculture en Europe, on fait de la gestion de pathologies végétales. C'est-à-dire que le bon agriculteur, c'est celui qui réussit à amener une plante malade jusqu'au silo pour que vous la mangiez. Alors que normalement, il y a des insectes qui sont là pour éliminer ces plantes malades, pour que surtout, vous ne mangiez pas de la plante malade. Et on ne fait plus d'élevage, on fait que la gestion de pathologies animales. Un taurillon de batterie, à 24 mois, il est mort de crise cardiaque. Donc on l'abat à 16 mois pour qu'il ne crève pas dans le camion avant l'abattage. Et vous allez manger une bête qui est subclaquante. Donc ce n'est pas excellent pour la santé. Il y a une enquête récente qui a été faite aux États-Unis où ils ont comparé les teneurs moyennes des légumes en 1930 avec les teneurs moyennes des légumes maintenant. Des éléments comme le magnésium ont baissé de 100% en valeur hein, en 70 ans. C'est-à-dire que vous mangez maintenant des éléments, les gens sont complètement carencés en sélénium. 95% de la population européenne est carencée en sélénium. Le sélénium, c'est très important, ça fait partie des antioxydants qui protègent contre le cancer. Le problème, c'est que les plantes les plus riches en sélénium sont les choux. Les gens ne mangent plus de choux parce que le chou, quand vous lui mettez des engrais, vous lui mettez du NPK, il se met à puer. Il synthétise des molécules qui s'appellent les cystéines sulfoxydes qui sont extrêmement mauvais. Donc ça empeste la cuisine. Donc les gens ne veulent plus mettre de choux. Et du coup, ils sont carencés en sélénium. Donc ce genre de modèle est un modèle idéal pour créer des gens carencés.
Au cours de cette même conférence, il proposait des techniques culturales alternatives dont ils ont vérifié l'efficacité partout dans le monde. Elles rejoignent les techniques utilisées depuis longtemps en agriculture paysanne et qui ont pour souci de garantir au système sol-plante un fonctionnement normal qui respecte les architectes du sol, c'est-à-dire toute la faune. Vous avez certainement entendu parler du BRF, bois raméal fragmenté, qui protège le sol de l'érosion et dont la décomposition le fertilise. Dans ces techniques, il n'est plus question de labour qui trace de profonds sillons, mais des égratignures du sol à l'aide de semoirs à disque ou de rouleaux crantés pour un semis direct. Écoutons François Julien de l'Agence française pour le développement. L'agroécologie propose des solutions qui sont parmi les plus viables. Visant à garantir une utilisation durable des ressources, elle a pour principe de mettre l'écosystème au service des cultures, de réduire l'impact négatif de celles-ci sur les terres et l'eau, tout en améliorant les rendements. Le plus souvent, il s'agit d'exploiter les sols sans labourer et sans utiliser d'intrants chimiques. Dans les zones tropicales, la technique du semis direct sur couverture végétale est privilégiée. Le maintien d'un couvert végétal laisse le temps à l'eau de pluie de pénétrer la terre et, en limitant son ruissellement, d'atténuer l'érosion. Au final, le paysan améliore sa production puisqu'il augmente la fertilité de sa terre et économise le coût du labour et des engrais. Il y a beaucoup de savoir-faire utilisables pour respecter les sols et leur fertilité. Et je vous renvoie à l'abondante littérature qui existe sur le sujet, surtout qu'aujourd'hui, nous sommes dans la situation à avoir à rétablir le fonctionnement normal des terres cultivées.
Thank you.
terrienne se termine. Si vous voulez en savoir plus sur les sols, les chroniques terriennes se terminent. Si vous voulez en savoir plus sur les sols, consultez le bouquin de Lydia et Claude Bourguignon, Le sol, la terre et les champs, aux éditions Sang de la terre. Au cours de cette émission, outre la conférence des Bourguignons, vous avez pu entendre Daniel Messia et Christina Branco. Si vous avez raté une partie de l'émission, vous pourrez la réécouter mercredi et vendredi, 1er mars, ou tout simplement quand ça vous chante sur radiosaintafrique.org, les mensuels. C'était Clément à la technique, merci Clément, et n'oubliez pas notre rendez-vous Nous voulons des coquelicots, vendredi 1er mars à 18h30 devant la mairie de Saint-Afrique. Dites-le autour de vous et faites signer l'appel pour l'arrêt de tous les pesticides. Et si vous voulez en savoir plus sur cet appel, rendez-vous sur nousvoulonsdescoquelicots.org. À bientôt.
Les chroniques terriennes, parce que nous voulons des coquelicots et des abeilles. Une fois par mois, sur Radio Saint-Aff, par Cécile Blanche.